Donc, Séverin, toi, tu es prof à l'Université de Lille et tu as décidé de participer à titre perso à l'expérience de démocratie participative de Saillant en 2014.
Oui, à partir de 2015, moi. Mais oui, effectivement, c'était en 2014 au moment des élections, que ça a eu lieu.
Ok, et donc, est-ce que tu peux nous parler du modèle de gouvernance qui a été testé par ce village?
Oui, volontiers. On peut qualifier ce qu'ils ont mis en place d'une. Alors, démocratie participative, le terme est un petit peu galvaudé. On a beaucoup entendu parler de participation. Ils ont essayé de mettre en place une démocratie collégiale au niveau du village.
Et alors, qu'est-ce qu'on entend par démocratie collégiale?
Collégiale, ça signifie que tous les élus prennent part à l'organisation de la vie quotidienne du village et des activités de la municipalité. Et donc, ils se sont répartis en binômes sur les différentes compétences qu'on peut retrouver dans n'importe quelle municipalité, mais ils ont défini en amont des commissions, ce qu'ils ont appelé des commissions participatives sur la question de la vie sociale et du vivre ensemble, sur des thématiques comme les comptes et les finances publiques, l'écologie, l'environnement et le développement durable, sur les questions d'économie locale, etc., etc.
Et tu parles
Et
des
donc,
élus, et est-ce que les citoyens aussi ont pu participer à cette démocratie
et
collégiale?
alors, bien sûr, avant les élections, les habitants ont été invités à plusieurs réunions, et c'est avec ces habitants, bon, ils étaient à peu près 150 à chacune des réunions, ils ont organisé des ateliers, on va dire, d'éducation populaire politique, d'une certaine manière, pendant lesquelles, ensemble, ils ont défini des orientations pour le village dans les années à venir, et puis aussi le mode de gouvernance. Et donc, au moment des élections, quand ils ont été élus, ils ont ouvert les portes de la mairie, et les habitants se sont inscrits dans les différentes commissions et ont participé très clairement à mettre en œuvre les différents projets dans ce qu'ils ont appelé des groupes d'action projet, des GAP, qui visaient à concrétiser en fait tous les projets qu'ils avaient définis ensemble ou qu'ils définissaient ensemble à l'intérieur des commissions. Alors ça a contribué à une très clairement à politiser la vie locale, à la repolitiser au sens prendre part à la vie quotidienne de la commune, du village et des affaires courantes. Et ça a concerné, je crois, le village fait à peu près 1300 habitants. Donc c'est pas un grand village, mais il n'est pas enclavé. Ça a concerné un tiers de la population qui a été d'une manière ou d'une autre engagée dans cette action, cette participation concrète là pour le coup. Hein. On peut ce qu'on en sociologie, mais pas seulement en sociologie, on parle d'ocratie qu'on traduit donc par la démocratie du faire. C'est lié à l'idée que la démocratie, elle ne se décrète pas, elle se pratique. Et qu'à ce titre-là, les personnes peuvent s'engager concrètement dans la mise en œuvre de projets et leur concrétisation.
Et les deux tiers restants de la population, est-ce que c'est un refus de s'engager de leur part ou alors pas forcément intéressé par le projet? Comment tu le perçois?
Les deux. Pour une part de la population, on peut imaginer qu'elle était happée par d'autres préoccupations quotidiennes. Et puis on est dans une société où la représentativité est une valeur assez inculquée et forte. C'est-à-dire qu'on élit les personnes pour qu'elles nous représentent. Et une fois qu'on est représenté, on s'en préoccupe pas nécessairement beaucoup. Et donc, pour une part de la population, ça a continué à fonctionner de cette façon. Ils savaient qu'il y avait des élus, qu'il y avait une expérience en cours dans le village, mais ils s'en sont pas trop préoccupés. Et puis certains autres étaient peut-être plus opposés même à la démarche d'une on
D'accord.
va dire quoi une organisation plus horizontale de la vie où les décisions le pouvoir de on va dire quoi la puissance d'agir se déploie de façon plus horizontale et je pense que certains et certaines idéologiquement étaient contre cette idée et que un représentant, un chef en haut d'une pyramide, ça leur convenait tout à fait, et donc cette formule-là ne leur à contrario ne leur convenait pas vraiment.
D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme exemple de projet, de structure qui ont été mis en place pendant cette expérience?
Alors, il y en a eu plusieurs, mais alors de structure, il y a eu la maison médicale.
La maison
Qui a été
médicale.
mise en place. Ouais. La maison médicale, parce qu'il y avait un manque de professionnels de santé et qu'ils avaient besoin, pour les anciens en particulier, que accueillir des professionnels de santé à disposition. Même si, encore une fois, le village, c'est pas un village enclavé, hein, c'est un village qui est très dynamique et je pense que ça a joué dans la possibilité de cette expérience. Il y a une cinquantaine d'associations, voilà, aujourd'hui, hein, il y en avait une quarantaine au début, mais même un peu moins, mais au début de l'expérience, il y en avait,
Ah oui.
à la fin, il y en avait une cinquantaine. Ouais. Donc c'est quand même un village très dynamique socialement. Économiquement, l'activité est plutôt localisée. Il y a pas mal de commerces, il y a des artisans, il y a on va dire quoi, des métiers du service aussi autour de l'audiovisuel, des pratiques paramédicales aussi ou de bien-être. Et donc il y a la possibilité de vivre et de travailler au village, ce qui donne on va dire une dynamique socio-économique qu'on retrouve pas toujours dans des villages ou
Mais
l'idée
oui.
qu'on se fait du monde rural très désertifié. Donc il y a eu cette maison médicale, il y a eu plein de projets qui n'ont pas beaucoup d'ampleur parce que ça concerne la vie d'un village en fait. Mais qui ont été réalisés par les habitants en fonction de leurs préoccupations. Par exemple, ils se sont préoccupés de réduire la consommation énergétique de la commune en mettant en place un plan d'extinction des lumières le soir, des lumières publiques le soir. Et ils ont acquis collectivement une vraie expertise en faisant le tour des quartiers le soir, en faisant le recensement des rues qui avaient besoin d'être éclairées jusqu'à quelle heure, etc. Et en consultant et en travaillant avec les habitants, puisque de toute façon ils étaient dans les groupes d'action projet, à réduire, je crois, d'un tiers la consommation énergétique rien que de ce point de vue-là. Ils se sont beaucoup engagés dans le PLU, le plan local d'urbanisme, qui est un énorme chantier pour ce genre de commune, où ils ont cherché à penser le village dans la longue durée, en partant des désirs des habitants. Comment vous imaginez votre village dans quelques années? Ce qui est ressorti de ce PLU, c'était que leur préoccupation était de ne pas produire de l'habitat extensif. D'une part parce que ça coûte de l'argent, ça coûte en énergie, ça coûte dans les budgets municipaux pour faire des raccordements, pour faire des... Et ça désagrège aussi un peu la vie sociale. Donc, tenter de contrôler la pression immobilière qui existe véritablement dans la vallée de la Drôme,
C'est-à-dire qu'on construise pas autour de, enfin qu'on n'étende pas le village, quoi. C'est ça,
Oui,
non?
l'idée, c'était de ne pas étendre le village, de faire en sorte que l'habitat soit le plus ramassé autour du centre-bourg. et que par ailleurs on puisse dégager des terres pour l'agriculture, même si ça n'a pas été complètement évident en termes de résultats.
D'accord.
Voilà, je te donne deux orientations. Il y en a eu plein, hein. Il y en a eu
Ouais.
une cinquantaine de projets qui ont été réalisés. Ça sont des gros, mais ça a été aussi aménager les bords de la Drôme, faire en sorte qu'il n'y ait plus de crottes de chiens, que les gens se responsabilisent vis-à-vis de ça pour que ça soit des vrais lieux de promenade, de retrouvailles et d'organisation de moments festifs. La fête est très importante, en fait, dans ce genre d'expérience.
Ah ouais.
Ouais, mais comme partout, on se rend compte maintenant aujourd'hui
Ouais.
avec une très forte acuité, mais dans la possibilité de ce de cette, je parle d'expérience parce que c'est véritablement une expérience de démocratie, mais c'est
Oui.
une aventure humaine pour tous ceux qui la vivent. Il y a des moments qui sont durs, de l'usure parce que ça fonctionne beaucoup sur de l'engagement. Ils avaient beau être 14, 15, 16 élus très engagés dans cette dynamique. Il y a des moments de tension, il y a des moments de fatigue, il y a des moments où on doit mettre de côté sa vie professionnelle, sa vie familiale.
Ah oui.
Et si ça ne se fait pas dans la joie, et le plaisir de se retrouver, on passe à côté de beaucoup, et
Carrément.
puis possiblement ça tient pas si bien.
Ok. Mais moi, j'étais, comme je t'avais dit, j'étais passée dans ce village et j'avais vu un centre numérique et social, quelque chose comme ça. Je
Oui.
sais pas si ça te parle, mais ça m'avait frappé. Enfin, j'avais jamais vu ce genre d'initiative, encore moins dans un village, quoi.
Oui.
Et c'est l'impression que j'ai eue en étant là-bas, qu'il y avait vraiment beaucoup de petits endroits comme ça qui sortent un peu des sentiers battus et qui lient plein de secteurs en fait, le social, l'environnemental, les petites boutiques bio, l'artisanat.
Oui, c'est lié à, je pense, la population qui habite à Saillant, qu'on retrouve un peu à Die aussi, d'une autre manière à Cray, et puis dans quelques villages du coin, de la vallée. Il y a une population, on va dire quoi, néo-rurale, même si le terme est tout à fait à remettre en question. C'est un village qui a une structure démographique assez proche d'une petite ville et une petite ville dynamique avec une circulation de population qui est importante. On est dans un corridor entre Cray et Die, donc il y a beaucoup de passages, de personnes qui s'installent, de personnes qui repartent. Et donc ce brassage crée une dynamique en sachant que, je ne sais pas si je le disais tout à l'heure, mais c'est un village qui a une histoire ouvrière. Il y a une usine de textile autour des soieries qui a embauché jusque en 1968, au moment de sa fermeture, une grande partie de la population et principalement des ouvrières. Ces ouvrières ont été, parmi d'autres, très actives dans les associations, comme pas mal de villes ouvrières où le tissu associatif est développé, ou a été développé, là il a été maintenu, et puis dans les reconversions après la fermeture de l'usine, il y a quelques ouvrières qui ont monté, ouvert des commerces et qui ont participé ou qui se sont occupés de bibliothèques et autres, et qui ont participé donc à entretenir ce tissu social qui est très fort, et qui au fil du temps s'est transformé avec l'arrivée de nouvelles populations qui venaient souvent, on va dire quoi, dans les années 80, c'est pas tout à fait la même chose que dans les années 90 ou 2000. Dans les années 80-90, les populations qui arrivent sont plutôt des populations qui cherchent à trouver des logements à un prix moins élevé qu'en ville, mais qui n'investissent pas toujours la vie sociale, la vie collective. À partir des années 2000, on retrouve un peu ce qui, mais dans une forme différente, ce qui s'est joué dans les années 70, où on va dire quoi, le retour à la nature s'est exprimé contre la société de consommation, avec une forte envie d'autonomie, voire d'autarcie, de communautés qui se créaient et qui engageaient un mode de vie complètement déconnecté de même des populations, des modes de vie de la population locale. À partir des années 2000, ce sont plutôt des urbains, jeunes urbains, qui arrivent et qui décident, soit parce que ils ont des enfants, soit parce que ils veulent changer de rapport au monde, tout simplement, changer leur manière de travailler dans une société où le monde du travail produit une usure extrême et précoce. Une envie d'autre chose, une qualité de vie, mais en ayant vécu dans des centres urbains auparavant, ils savent ce que, enfin, ils ont envie de reproduire en partie la vie sociale riche d'un centre urbain dans le village. Et donc, ça participe d'une nouvelle façon à la dynamique. Ce qui ne veut pas dire que sont tous des habitants, les néo-ruraux sont pas tous des personnes qui ont beaucoup de moyens et qui ont quitté les grandes villes, mais en tous les cas, on voit apparaître effectivement dans le village, on va dire à partir des années 2010 et un peu avant les élections, des commerces bio, en 2015-2016. Un local de vente de producteurs locaux. Maintenant, je crois qu'ils sont 80 associés dans cette boutique. Et puis d'autres lieux de consommation et d'échange tout autant qui créent une forme d'interdépendance tout à fait conscientisée. Les habitants
C'est justement ce qu'ils recherchaient.
Ouais, c'est ça. Il y a vraiment cette idée qu'on va pas que la plupart, alors la plupart, ceux qui investissent la vie publique du village ont à cœur que les commerces restent dans le centre-bourg, à la fois pour les anciens, ça leur permet de pas avoir besoin de ne pas être dépendant pour leur consommation. Leur alimentation d'hypermarché qu'il y a à quelques dizaines de kilomètres, enfin à 10-12 kilomètres, et de pouvoir créer du lien social à travers le maintien de commerce. Mais ce qui veut dire qu'on, même si c'est parfois un petit peu plus cher, ça veut dire qu'on fait la démarche, et donc c'est vraiment une démarche d'interdépendance, on fait la démarche d'aller chercher son pain, sa bouffe dans les commerces du centre-bourg.
Donc a priori, on peut tout trouver dans le centre-bourg.
Tout, jamais tout dans un village,
Ce dont on a
mais
besoin pour les besoins.
au quotidien, oui, c'est ça, au quotidien, il y a deux boulangeries, il y a un dépôt de pain, il y a des restaurants-bars, un bar, des snacks qui sont fermés, là, quasiment fermés pour l'instant, il y a une pharmacie, il y a une poste encore, il y a une gare SNCF encore, qui va être réinvestie par un projet là, de tiers-lieu, ce qu'on appelle un tiers-lieu. Une boucherie, une boutique bio, enfin un magasin d'alimentaire bio, une petite supérette, j'en oublie, hein, une librairie qui a été créée en 2015-2016 et qui est alimentée par les lecteurs. Ça a été une très belle expérience, ça aussi.
Et puis toutes les associations qui font des actions du coup au niveau du village.
Oui, tout à fait.
Ah, ça doit bien bouger, hein. Ça doit être agréable de vivre
Ça
là-bas.
bouge bien. Avant la pandémie, il y avait plein de fêtes, de moments collectifs, parfois tout à fait improvisés. Ils se sont beaucoup mobilisés en soutien de Briançon. Alors, pas le village hein, dans son ensemble, mais des collectifs se sont mobilisés en soutien de Briançon quand le corridor d'arrivée des exilés passait par là, ce qui est mon cas aujourd'hui, et ils se sont beaucoup engagés dans l'accueil de ces exilés, collectivement, encore une fois, pour les scolariser, pour les plus jeunes, pour les aider à se loger, à trouver des formations ou à les former. Donc oui, ça crée une vraie ces mamans collectives, ces mamans qui sont du faire ensemble, produisent aussi une vie sociale très riche qui renvoie à des vies désirables selon l'idée qu'ils s'en font. Et là, je ne parle pas de toute la population du village, hein, mais je veux dire qu'encore un bon tiers de cette population, ce qui est assez considérable, en fait, déjà.
Ah, carrément. Et est-ce que cette expérience de Saillant, elle a inspiré d'autres villages? Est-ce qu'il y en a eu d'autres après des
Alors,
expériences?
bien sûr, dans l'équipe, allez, on va dire, ouais, dans l'équipe initiale, pas dans l'équipe municipale, mais dans le groupe qui a constitué la liste et puis ceux qui gravitaient autour, il y en a certains, dont une personne qui était professionnelle de l'éducation populaire, qui est quasiment partie avec son bâton de pèlerin pour essaimer. Hein, puisque ces expériences, elles sont pas reproductibles terme à terme. On a besoin de comprendre ce qui se passe, ce qui est singulier, ce qui peut être reproductible ailleurs, mais en fonction de contextes qui sont très très variables.
Oui.
Et donc l'essaimage, ça consiste à raconter comment ça s'est passé au village, quelles sont les possibilités de faire, d'activer la puissance d'agir, mais aussi les embûches qu'on peut rencontrer pour que, à la fois donner envie et puis pour donner des billes et des clés et des connaissances presque concrètes et pratiques à celles et ceux qui ont ce genre d'envie aussi. Et là, pour le coup, celui qui est parti avec son bâton de pèlerin, je crois qu'il a organisé plus de 280 ou 300 ateliers un peu à travers la France, auprès de collectifs qui voulaient monter des listes, de municipalités. Et donc, dans la vallée de la Drôme, oui, il y a des listes municipales qui se sont constituées, pas sur cette base exactement, mais avec plein d'éléments transmis, échangés de cette expérience de Saillant, comme Saillant lui-même, les gens de Saillant se sont inspirés de ce qui s'était fait ailleurs auparavant.
Ouais, parce
Ça
que c'est quelque
fonctionne comme
chose
ça.
d'inédit, d'innovant, et que ben on sait, si on ne sait pas comment faire et qu'on n'a pas les outils, c'est compliqué. Donc d'avoir un retour de quelqu'un qui a participé, ça doit pas mal aider.
Ouais, exactement. Ouais. Et puis, cette expérience a été particulièrement médiatisée.
Oui.
À un moment, je pense que dans les, ça devait faire partie des trois ou quatre patelins qui étaient estampillés, démocratie participative, il se passe quelque chose à Saillant. Et donc, ça a fait venir d'abord des médias militants locaux, puis des médias, quand je dis militants, c'est alternatifs plutôt,
Oui.
c'est-à-dire en dehors des médias mainstream. Et rapidement, au moment des élections diverses ou de sujets d'actualité autour de la démocratie, les médias mainstream, la grande presse aussi, Le Monde, Libération, ils ont tous fait, en
Ah
fait,
oui.
je crois que moi j'ai recensé 200, 300 articles de presse de différents niveaux.
Ouais, très très médiatisé.
Pardon, j'ai plus de voix en fait, hein, mais c'était avant notre échange.
Ah, t'as plus de
J'ai la
voix.
voix un peu cassée.
Ah, d'accord.
Non, mais c'est pas grave.
Ça va, j'ai pas remarqué pour l'instant.
Tant mieux. Donc oui, ça a aussi beaucoup contribué à la visibilité et
Ouais.
donc à l'attrait.
Bah oui,
Ce
et
qui
du coup, ça a
fait
donné
qu'il
envie.
Ça a donné envie et puis ça a fait concrétiser aussi ailleurs. Mais ça arrive aussi dans des lieux qui sont repérés, identifiés comme étant les parangons d'une expérience donnée, comme la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, par exemple, hein, qui est très
Oui.
visible et qui est très suivie, et très visitée aussi. Ça a obligé l'équipe municipale, parce qu'ils étaient pris aussi dans le feu de ces projecteurs et que ça a créé des tensions à l'intérieur du village. Ça les a incités à baliser des journées entières. Ils en faisaient deux, trois dans l'année pour accueillir des collectifs et des équipes municipales pour échanger, raconter, échanger sur leur expérience sur place.
Et c'est l'idée aussi de créer un espèce de réseau pour faire en sorte que localement, en plein d'endroits en France, ça puisse se passer.
Oui, ça fonctionne comme ça, tout à fait. En fait, c'est quand même porteur de valeurs, moi que je qualifie plutôt de valeurs de gauche, hein, cette idée d'horizontalité, de solidarité tant que possible, et de manière de vivre ensemble, qui nous nourrissent mutuellement. On a envie que ça se développe. Et donc on œuvre aussi à ce développement sur place, mais pas du tout de façon, encore une fois, fermée, ni autarcique, avec l'idée que c'est pas un modèle de société, mais c'est une expérience sociétale à petite échelle, qui vaut le coup d'être tentée, d'autant qu'on est dans un monde très normatif et très normalisé, où les dirigeants se positionnent en haut, ceux qui décident se positionnent en haut, et les autres suivent, en dépit de leur, on va dire quoi, même de leurs opinions. C'est un peu grossier ce que je viens de dire, mais bon.
Non, mais ouais, c'est carrément ça. Donc en fait, ce modèle-là, finalement, il transmet plein de belles valeurs humaines, mais aussi, en quoi est-ce que il nourrit la transition écologique?
Alors, je pense que c'est pas un modèle. Enfin, et eux, d'ailleurs, eux non plus, ne se pensent pas comme un modèle.
Ok.
C'est un exemple.
Ouais.
Donc c'est une expérience qui fait exemple. Et elle fait exemple parce qu'elle a existé, puisque c'est plus tout à fait la même chose maintenant. La transition écologique, il y a des dans l'équipe municipale, comme elle a été constituée, il y avait des écolos très actifs, mais pas seulement. D'autres personnes qui étaient moins portées par ces sujets. Mais on peut dire que alors ils ont essayé plein de choses, hein, je parlais de l'exemple des lumières, mais il y en a plein d'autres. Ils ont essayé de porter on va dire quoi, cette forme de résilience des espaces habitables, en pensant nécessairement localement, globalement, la transition. Relocaliser l'emploi, ça veut dire moins de déplacements. Faire en sorte que les commerces soient en place, c'est aussi la possibilité de ne pas consommer, et puis de ne pas aller dans des grands centres commerciaux qui, on le sait, sont très délétères pour notre environnement et pour nous-mêmes, hein. Mais aussi porter la qualité des produits, penser aux producteurs locaux, en leur aménageant des locaux, des espaces pour vendre leur production, et aussi dynamiser le marché du dimanche, etc., etc. Ça, tout ça, c'est de l'ordre d'une pensée de la transition, hein. Ou œuvrer pour une régie publique, des repas bio et locaux dans des cantines scolaires, ou de la halte-garderie, etc., etc. Mais on est, et je sais que tu y as fait un tour, ce que tu me disais, on est aussi, comment dire, on est traversé par le vivant. Il y a le Vercors pas loin, qui est un vrai espace, un vrai parc national, j'allais dire naturel. Mais si on parle de vivant, je peux pas trop jouer en opposant naturel et vivant, quoi. On est dans un espace, un territoire, où la question climatique, elle explose à la tronche, parce que on baigne dedans. On n'est pas dans un univers minéralisé comme la ville, où on voit de temps en temps qu'il fait chaud, il fait froid, il fait très très chaud, il fait très très froid, il y a des grosses pluies. Mais en dehors de ça, on ne voit pas disparaître tout le temps les oiseaux, de toute façon ils ne sont pas tant là. Et puis les plantes, elles poussent même à la lumière de nocturne. Donc voilà, on est complètement déconnecté dans un milieu complètement urbain. Quand on est entouré de montagnes, d'espaces, de forêts dans lesquels on va se balader et qu'on voit les saisons, les loups, on les voit pas toujours, mais on les entend. Et puis on va dire cette ce je vais pas dire on a envie de s'en soulager, mais ce contact fait cette promiscuité, se vivre ensemble aussi avec le reste du vivant. Là, j'ai l'impression de faire du Baptiste Morisot, mais voilà, c'est pas grave. Ce vivre ensemble amène nécessairement à penser avec.
Ouais, comme
Parce
un
que
ensemble.
le dérèglement climatique, on voit. Et moi, j'étais ce qui m'a marqué l'année dernière, c'était au mois de novembre. J'étais sur place et il y a eu des trombes de neige qui sont tombées d'un seul coup en l'espace de 2 jours. Il devait y avoir 50 cm de neige, une neige très très lourde. Et dans toutes les forêts alentour et les montagnes alentour, les arbres cassaient comme du verre.
Oui.
Et ils ont cassé comme du verre parce que l'été précédent avait été très très sec et les arbres n'étaient plus gorgés d'eau en fait. Et ils se sont brisés
Ouais.
par la sécheresse qui avait précédé et pas seulement par le poids de la neige.
D'accord.
Donc on voit ça.
Ouais.
Et on voit une temporalité qui est quand même, on le saisit tous, ça. On est saisi par une temporalité très courte de ce dérèglement climatique. Et quand on le voit au quotidien, contrairement à une grande ville, c'est d'autant plus frappant et on s'en soucie d'autant plus.
Du coup, c'est une évidence plus que qu'autre chose de vrai en faveur de la transition écologique, comme vous êtes dans l'environnement, que ouais, vous êtes plongé dedans, contrairement à nous en ville.
Je sais pas si c'est une évidence. En tous les cas, je pense que ça facilite d'une certaine manière, parce qu'on est aussi en région PACA, que le président de la région PACA, on le connaît, a décidé que les associations écologiques n'avaient pas besoin de tant de subventions et que les premiers écologistes étaient les chasseurs, les associations de chasseurs, et que les fonds ont été attribués aux associations de chasseurs. Il y en a aussi, hein, et aussi vivent dans ce même espace. Ils n'ont pas le même ra rapport au monde, simplement. Donc c'est pas s'il n'y a pas
C'est
un
pas une
rapport
évidence du
d'évidence.
coup, ouais.
Non, il n'y a pas un rapport d'évidence, mais il y a vraiment, on va dire quoi, là aussi, une expérience de vie avec ce qui nous entoure, ce qui entoure, qui prête à être plus sensible, plus conscient de ce qui se joue.